Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, comment améliorer la qualité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Nous recevons aujourd'hui Madame Félan Aliderson, elle est spécialiste éducation à l'UNICEF. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également recevoir Monsieur Richard Monsomo Amundala, conseiller du chef de l'État en charge de l'éducation et de la recherche. Jacques Chimbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, sera également de la partie. Il est déjà en ligne dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez-nous déjà pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Quelle est la place de l'éducation dans la lutte contre les discours des haines? Ce sera notre deuxième thème du jour. Nous allons recevoir comme invité le professeur Willy Balanda, sociologue. On aura également monsieur Serge Bondedi, qui est secrétaire général de l'ONG Imaye et le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, sera également de la partie dans cette émission de la vie au quotidien. Pour participer, écrivez-nous à service@radiocapi.net, service@radiocapi.net, voilà. Et vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler au 099-706-9941. Patrick Yassongwa assure la mise en onde. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation de cette émission au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous.
Radio Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale à l'occasion de la journée international de l'éducation qui sera célébré demain, 24 mercredi 24 janvier 2024, et cette célébration va beaucoup plus sera axée, dédiée à la lutte contre le discours de haine. On parlera du rôle du système éducatif dans la lutte contre les discours de haine, mais avant d'arriver à cette thématique, nous allons parler de la qualité de l'enseignement au niveau primaire. D'après les informations reçues, la gratuité de l'enseignement a permis à plusieurs enfants de regagner le chemin de l'école. Voilà, ce qui a fait que le nombre d'élèves a sensiblement augmenté au niveau des salles de classe. Un autre constat, le nombre d'enseignants du primaire, il y a beaucoup d'enseignants du niveau primaire qui ne sont pas toujours mécanisés, qui n'ont pas encore leur numéro matricule, voilà, ils ont des soucis par rapport à leur salaire. Pour certains, la gratuité de l'enseignement, bien entendu, a permis à plusieurs enfants de reprendre le chemin de l'école, mais cela a eu un impact aussi sur la qualité de l'enseignement primaire. Eh bien, nous allons en savoir plus avec nos invités. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'enseignement au niveau primaire. Nous allons accueillir notre invité qui est avec nous dans ces studios, Madame Félan Aliderson, elle est spécialiste de l'éducation à l'UNICEF. Bonjour Madame.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Bienvenue dans cette émission. Alors quel état des lieux, la première question, quel état des lieux vous faites de l'éducation au niveau primaire en République démocratique du Congo?
En fait déjà nous avons trois grands constats. Le premier c'est que on ne peut pas parler d'apprentissage de la qualité si on ne peut pas parler de l'accès. Et à ce stade, on est à 7,5 millions d'enfants de 5 à 17 ans qui sont non scolarisés et qui auront besoin d'acquérir les compétences nécessaires. Ensuite, une fois que ces enfants seraient dans le milieu scolaire, c'est surtout le taux d'achèvement qui est quand même assez bas, qui est à 70%. C'est-à-dire que 70% des élèves finissent le primaire, alors qu'on devrait être à plus haut que ça. Et troisièmement, le constat, c'est que seulement 27% des élèves ont les compétences nécessaires pour savoir lire et seulement 18% ont les compétences nécessaires pour savoir compter. Mmh. Ça veut dire que de tous ces enfants-là, on n'a que cette proportion qui ont les compétences nécessaires.
Mmh. Donc on retient aujourd'hui à ces jours 7,5 millions d'enfants ne sont pas toujours scolarisés malgré la gratuité de l'enseignement.
Malgré la gratuité de l'enseignement.
Et pourquoi? Quelles sont les raisons?
Ben, c'est différentes raisons surtout. Il y a ceux qui ont intégré l'école, mais il y en a ceux qui, pour cause d'éloignement, pour cause de non-existence d'école dans, de là où ils sont, il y a les catastrophes naturelles, il y a les conflits, mais il y a surtout la pauvreté des parents qui font qu'ils ne peuvent envoyer leurs enfants à l'école.
Bien, nous avons en ligne M. Jacques Tshimbalanga. Bonjour. Vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEPT, RDC. Nous parlons de aujourd'hui de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de l'éducation au niveau primaire. Alors la première question que je vous pose également, c'est quel état des lieux vous faites de la qualité de l'enseignement au niveau primaire?
Bien, il faut dire que concernant l'état des lieux, Madame de l'UNICEF qui vient d'intervenir a pratiquement planté le décor. Mais ce qui est important à savoir, c'est que nous rappelons le principe que nous rappelons toujours pour nous en tant que fêtières des organisations de la société civile dans le secteur de l'éducation, c'est que pour nous, l'éducation n'est rien, l'accès à l'éducation n'est rien si elle n'est pas de qualité. Il est certes vrai que depuis 2019-2020, la République démocratique du Congo a fait un bond en avant par la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, qui aurait dû être l'enseignement de base, l'éducation de base, mais qu'on applique à ce stade au niveau primaire, et que cela a amené le nombre d'enfants que l'on est en train de dire, environ 6 millions à l'école, à ramener 6 millions à l'école, sans pour autant résorber toute l'enveloppe des enfants et adolescents qui sont encore en dehors de l'école, on venait de le rappeler, pour plusieurs causes, notamment la pauvreté, les questions de conflits qui parsèment encore, qu'on essaime encore ici et là à travers le pays. Il est donc essentiel de rappeler que, en ce qui concerne le droit à l'éducation, c'est que si on n'investit pas dans la qualité, c'est que nous allons tourner en rond. Il est donc clair qu'aujourd'hui, l'accès, on ne peut pas continuer à dire que nous avons 6 millions d'enfants à l'école, qui sont rentrés à l'école, et continuer à voir que sur terrain, que ces apprenants sont incapables de lire et de construire une phrase complète, sont incapables de calculer. Et donc, c'est quelque chose d'important. La qualité doit être de mise, mais cette qualité ne peut être de mise que si l'État investit suffisamment les moyens public. Nous insistons sur les moyens publics.
Monsieur Jacques, pour nous, Monsieur nous Jacques, croyons. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que la gratuité a eu un impact sur la qualité de l'enseignement?
La gratuité a eu un effet sur l'accès à l'éducation, sans pour autant résoudre la question de la qualité, et il faut maintenant consolider la gratuité, nous croyons. Pour consolider la consolidation de la gratuité aujourd'hui signifie investir dans la qualité. Parce que toute la somme, la masse importante d'enfants, d'apprenants qui rentrent à l'école, si cette masse-là n'apprend rien ou n'apprend pas, ou n'apprend que de manière aléatoire, n'ont pas les connaissances voulues, eh bien, on a investi dans du sable. C'est la grande bataille aujourd'hui que l'État congolais doit effectivement continuer. Je vais ajouter une chose. Puisque nous parlons de la gratuité qui a ramené beaucoup d'enfants à l'école, mais on constate qu'il y a, les données montrent aujourd'hui que plus de 7,5 millions d'enfants sont encore en dehors de l'école. Mais c'est aussi parce que le pays n'a pas encore investi dans ce que le principe fondamental qui a été édicté dans la Constitution. La Constitution n'a pas seulement parlé de la gratuité de l'enseignement primaire ou de l'éducation de base,
oui.
Mais la Constitution et la loi cadre parlent également de l'obligation scolaire. Cet autre aspect n'est pas encore appliqué. Ce qui fait que, évidemment, les parents qui ont encore les enfants, qui gardent encore les enfants à l'école, ils trouvent qu'il n'y a pas de contrainte. Si la gratuité n'est pas associée à l'obligation scolaire, eh bien, on peut continuer à investir de l'argent, il y aura toujours des enfants qui seront en dehors de l'école.
Bien, Madame Flana...
Si la gratuité,
oui.
On n'investit pas fondamentalement et de manière rationnelle sur la qualité, ça veut dire avoir des enseignants qui sont formés pour être enseignants, effectivement, des enseignants donc qualifiés, et que nous investissons dans les matériels didactiques qu'il faut, dans tout ce qu'il faut pour que les enfants aient le nécessaire pour pouvoir apprendre, eh bien, on continuera encore pendant 10 ans, on arrivera à 2030, on fera la stratégie post-2025, on n'aura pas de résultats suffisants et nous aurons à déverser sur le marché de l'emploi et dans la vie des apprenants ou des individus qui ne vaudront rien parce qu'il faudrait à tout moment revenir sur la formation professionnelle, la formation initiale pour que les entreprises les utilisent comme il faut. Donc il faut absolument, la nouvelle génération de la gratuité avant d'aller au secondaire doit d'abord investir suffisamment, mais alors suffisamment sur la qualité. Cela nécessite beaucoup d'investissements, beaucoup de dépenses de l'éducation, mais l'alerte que nous lançons, le pays va mal dans le sens où aujourd'hui les dépenses de l'éducation en termes de en termes d'allocation, nous avons vu par exemple que le pays a encore régressé. Nous sommes arrivés à presque 21% en 2021 en termes d'allocation ou des dépenses de l'éducation. Pour l'année 2024, l'État congolais, plutôt que d'aller au-delà ou de maintenir la cap de 20% et aller au-delà, l'État congolais a régressé ses allocations en matière d'éducation à 18,4%. C'est quand même une inquiétude pour un pays qui veut consolider la gratuité, et puisque pour nous aujourd'hui, la nouvelle manière de repenser la consolidation de la gratuité, c'est d'investir dans la qualité parce que c'est une qualité aléatoire que nous avons jusque-là.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons déjà en ligne, bienvenue Kikala de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, bienvenue?
Oui. Je suis très ravi que nous traitons de ce sujet aujourd'hui. La force d'un pays repose aussi sur la qualité de ses habitants et la formation que ces derniers reçoivent des écoles. Aujourd'hui, je crois que j'avais bien souligné sur votre page Facebook, il est impensable qu'un grand pays comme le nôtre, les enseignants touchent moins de 100 dollars ici à l'intérieur, là où nous vivons, et moins de 200 dollars à la capitale. Si vous analysez notre système éducatif, je dirais que c'est le système éducatif à plusieurs vitesses. À Kinshasa, il y a une autre forme de formation. Quand vous venez à l'intérêt, c'est une autre forme de formation. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas récrutés. On recrute n'importe qui parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'enseignement devient une activité de laisser pour compte. Aucune personne qui a besoin de son développement peut se lancer dans l'enseignement. L'école primaire a comme mission de former les enfants à apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, nous voyons les enfants ou les élèves qui finissent les écoles primaires qui sont incapables de formuler ne serait-ce qu'une seule phrase, penser et bien l'écrire. On va nous parler de la gratuité à ramener 5 millions, 6 millions, mais moi j'aurais qu'on analyse la qualité de ces 5 millions ou de ces 6 millions.
Bienvenue. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'éducation au niveau primaire. Quelles sont vos propositions?
Oui, oui. Pour améliorer la qualité de l'éducation au niveau de l'école primaire, oui. Il faut investir. En investissant d'abord sur l'enseignant qui est la pièce maîtresse de cette formation-là. Aussi, les écoles aujourd'hui n'ont pas de documentation. Si bien que l'enseignant pouvait être intelligent, mais tant qu'il n'y a pas de documentation, comment pouvait-il faire pour qu'il forme bien les élèves? Il faut investir énormément dans l'enseignement.
Bien, merci beaucoup. Madame Felana, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que Bienvenue vient d'affirmer?
Effectivement, il y a de grandes composantes qu'on doit vraiment regarder quand on veut parler de comment améliorer la qualité de l'éducation. Et Monsieur Bienvenu vient de toucher un mot sur toute la composante de la politique enseignante, c'est-à-dire les recrutements, la réallocation de ces enseignants, où est-ce qu'on les envoie, la formation, que ce soit initiale ou bien en cours de route, le paiement pour retenir les enseignants qui sont qualifiés. Mmh. Et ça, c'est un gros morceau qui, bien sûr, les partenaires sont là pour appuyer, mais le leadership revient toujours au gouvernement et au ministère de comment, quelle est la politique qu'ils voudraient mettre en œuvre pour les enseignants. Ensuite, on doit regarder par rapport à où sont nos étudiants, où sont nos élèves, qu'est-ce qui leur manque, quel est l'environnement d'apprentissage que nous leur donnons. Est-ce qu'ils ont les manuels? Est-ce qu'ils sont au moins assis? Est-ce qu'ils sont dans une salle de classe où il n'y a même pas de toit et où, où il pleut sur leur tête? Est-ce qu'il y a, pour les filles et les garçons, les latrines qui sont appropriées? Est-ce qu'on a quand même un minimum de standards à offrir à ces enfants qu'on fait entrer pour qu'ils soient dans un environnement qui les incite à apprendre? Mais tout ça, c'est aussi à partir de comment est-ce que nous, après, quels sont les standards où nous, on veut arriver. Et c'est les moyens de nos ambitions doivent être là, les dépenses qu'on alloue. Mais les dépenses ne sont pas seulement en termes de pourcentage, il faut être clair. Oui, peut-être c'est en 10%, peut-être c'est 20%, quel est le minimum que le pays peut offrir. Mais il faut faire une différence que les dépenses ne doivent être pas seulement salariales, mais doivent être investies vraiment dans l'éducation. Ce soit des dépenses d'investissement pour les manuels, pour les enseignants, mais pas seulement pour payer les salaires. Parce que si c'est ça, on est en train de tourner en rond. Et il ne faut pas oublier qu'un enfant qui va à l'école mais qui n'apprend pas perd double. Parce que le coût d'opportunité d'un enfant qui y va mais qui n'apprend rien, c'est-à-dire qu'il ne peut ni être utile à lui-même, ni être utile à son environnement, à sa famille ou aider. Et donc c'est là où nous devons vraiment de faire en sorte que certaines politiques soient vraiment mises en œuvre pour arriver à ça. Le dernier, là où je mettrai le point, c'est vraiment la gouvernance. On peut allouer les montants qu'il faut, les dépenses qu'il faut. On peut mettre les enseignants, mais si on n'a pas un minimum de gouvernance et de suivi pour savoir si un enseignant enseigne le nombre minimum d'heures chaque jour, si les enfants ont vraiment le nombre d'heures enseignées à l'école pour pouvoir apprendre quelque chose, si la communauté est assez engagée pour suivre les absences et les présences, si la communauté est là pour protéger leur école, et si les dépenses qui sont allouées sont utilisées à bon escient, c'est là où on peut espérer avoir des résultats qui soient cohérents et intégrés.
Mais la qualité de l'éducation, c'est bien, on parle des enseignants, il faut acheter les manuels et tout ça. Mais du côté de l'élève, des parents aussi à la maison, il y a un effort à fournir pour que l'enfant apprenne les leçons.
Bien sûr. Et il ne faut pas oublier que l'éducation, la qualité et vraiment tout ce qui a trait à l'éducation n'est pas que l'affaire du ministère et n'est pas que l'affaire des parents. Et c'est une collaboration étroite où chacun est main dans la main. Et c'est ce que je disais au tout début, que oui, on doit aussi améliorer les conditions d'apprentissage. Et les conditions d'apprentissage ne sont pas seulement à l'école non plus. C'est aussi assez de temps à la maison pour travailler. C'est un manuel individuel pour pouvoir se concentrer. C'est aussi un appui qui est disponible. Si les parents n'ont pas cet appui, c'est au moins un mécanisme d'appui pour les enfants qui est disponible au niveau des communautés pour appuyer, pour que ceux qui ne peuvent pas suivre, puissent suivre. Et c'est donc tout ça, c'est des différents mécanismes à différents niveaux qu'il faut prioriser en fait pour avoir des résultats. On ne peut pas juste travailler pour la famille et ne rien faire sur l'école. Faire sur l'école mais oublier l'enseignant. Ou alors travailler sur l'enseignant mais oublier le côté de la gouvernance. Il faut que tout soit ensemble.
Mmh. Monsieur Jacques Timbalanga, selon vous, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut investir dans la qualité. En faisant quoi exactement?
Eh bien, investir dans la qualité, c'est investir dans l'enseignant, investir dans ceux qui encadrent les enseignants, investir dans les manuels et les matériels didactiques, investir dans l'amélioration de l'environnement scolaire, investir pour notamment améliorer le temps scolaire de l'enfant, de l'apprenant. Si tout cela est réuni, eh bien, nous pensons que c'est déjà un pas pour aller de l'avant. Aujourd'hui, il est vrai que lorsque nous parlons qualité, il n'y a pas que payer les salaires. Mais c'est aussi investir dans l'enseignant en termes de formation initiale et continue. Voyons. Aujourd'hui, ne nous plaignons-t-il pas, est-ce que nous ne nous plaignons pas de la qualité parfois des enseignants que nous avons. Aujourd'hui, nous ne nous plaignons pas de comment nos enseignants sont formés. Mais ce sont ces enseignants-là qui doivent aller dans la salle de classe, s'occuper des apprenants pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que nous ne nous plaignons pas, par exemple aujourd'hui, du résultat même de ce que donnent ces enseignants-là. Tout ça doit être pris en compte. Mais je reviens sur une chose, c'est que pour en arriver là, il faut absolument que les moyens suivent, et pour que les moyens suivent, ce sont les moyens que l'État mobilise, dépense de manière rationnelle, que l'État arrive à faire des dépenses de qualité qui permettent effectivement de faire un pas en avant. Évitez donc le gaspillage par rapport à cela. C'est le plus grand problème que nous avons. Évidemment, on le dit, on peut investir même 50% du budget de l'État à l'éducation. Mais si l'utilisation qu'on en fait n'est pas transparente, n'est pas juste, ça n'arrivera pas, ça ne va pas atterrir sur le cartable de l'élève. Or, on a besoin que les dépenses interviennent, atterrissent sur le cartable de l'élève pour espérer que cet enfant-là, cet apprenant-là, aura des matériaux nécessaires aussi bien pour améliorer son temps scolaire, mais que pour améliorer ses résultats scolaire. On a besoin que cela atterrisse à l'école pour espérer que le fonctionnement de l'école sera bien pris en charge de manière à ce que l'enseignant ne manque pas les moyens de pouvoir faire son travail. On a besoin effectivement que cet argent-là atterrisse aussi dans la gibecière de l'enseignant, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, que cela atterrisse dans la gibecière de l'enseignant pour qu'il soit effectivement motivé. Mais on a besoin également que cet argent investi atterrisse dans nos institutions de formation.
Jacques Timbalanga, d'abord, est-ce qu'il y a des écoles ici où sont formés les enseignants, et puis ça prend combien de temps, comment ça se passe?
Ben, les écoles pour la formation des enseignants, il y en a, il y a les institutions d'enseignement supérieur, mais jusque-là, nous sommes encore dans la formation dans les humanités pédagogiques pour les primaires, bien entendu, pour avoir des enseignants qualifiés et rentrer dans la salle de classe. Mais si nous plaignons ici de la qualité, mais quelle est la qualité de ceux qui terminent et qui viennent pour enseigner les élèves? Bien entendu, c'est là que nous disons qu'il faut absolument mobiliser des ressources importantes pour cette réforme-là de la formation initiale, afin que l'enseignant soit mis au pas, l'enseignant soit formé en étant actualisé par rapport aux normes, par rapport justement à l'évolution de la situation. C'est ça le vrai problème aussi.
Bien, Madame Fedana, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la formation des enseignants? Parce que la qualité, tout commence par là, par la formation reçue par les enseignants également.
Mmh. Et quand on parle de formation des enseignants, c'est surtout aussi par rapport à où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut arriver. Mmh. Est-ce qu'on a un référentiel qui soit bien clair? Est-ce qu'on a un profil de sortie qui nous dise en fait voilà l'enseignant, le standard qu'on voudrait avoir? Maintenant, comment c'est décliné concrètement dans les centres de formation, les écoles d'application, là où ces enseignants-là sont censés apprendre à enseigner, parce que ce sont nos enfants qu'on leur confie. Et ça, c'est extrêmement important pour le ministère de décliner, en fait, et d'avoir une clarté sur quel produit fini est-ce qu'on voudrait avoir? Et comment est-ce qu'on y arrive? Et comment est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on a des formateurs d'enseignants qui soient assez compétents pour former ces enseignants-là? Et est-ce que la délivrance de certificats est assez maîtrisée pour que tout enseignant qui se dise enseignant ne va pas juste sortir et aller dans nos écoles? Mmh. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que ce leadership du ministère est assez fort pour avoir le contrôle sur cet aspect-là? Mais ça, un enseignant qui a une formation initiale ne suffit pas. Il faut aussi investir assez pour la formation continue, pour que cet enseignant-là continue à s'améliorer, pour faire face aux besoins des enfants et des élèves qu'il a en charge. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser dans un court et moyen terme, pas se dire juste « je suis diplômé, le ministère a diplômé 1000 enseignants et on est bon ». Il faut aussi les accompagner de sorte à ce qu'ils répondent vraiment aux besoins des enfants qu'on leur confie.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo, des questions et préoccupations. Eh bien, appelez au 099-706-9941. On va souffler un peu en musique et puis on va se retrouver juste après. Alors, vous voulez participer, le numéro est déjà communiqué. 099-706-9941.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Bien, vous êtes à l'écoute du magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, nous parlons aujourd'hui de l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Nous avons en ligne M. Jacques Tshimbalanga, coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, et Mme Felana Lidersan, spécialiste de l'éducation éducation à l'UNICEF, et notre invité. Alors, nous allons recevoir à présent Marc Tchata. Bonjour Marc.
Bonjour Jody.
Alors, vous étiez sur terrain pour faire parler les uns et les autres par rapport à la qualité de l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces sujets du jour?
Oui, alors, je dis, comme vous le savez, l'éducation est un droit humain, un bien public et même une responsabilité publique. Alors, puisque nous parlons d'éducation, nous avons interrogé les premiers éducateurs, c'est-à-dire les parents. Ces derniers ont donné leur point de vue en ce qui concerne la qualité de l'éducation ou de l'enseignement. Alors, selon les personnes auxquelles nous avions tendu notre micro, le niveau de l'éducation est inquiétant. Alors, ils évoquent entre autres les manques de matériel didactique, et également d'autres parents ont plutôt constaté la négligence de certains enfants qui ne prennent pas les études au sérieux. Alors, je vous laisse écouter M. Diedoné Matondo et Tito Ambala, tous deux parents qu'on a trouvés à Limété. Alors, ils nous font part de leur constat en ce qui concerne la qualité de l'éducation en RDC. Alors, suivez et puis nous allons revenir.
C'est tout à fait ça. Le band est un intérêt de l'également bien. Mais dans l'éducation, il y a un bien. À partir du téléphone de Kouma, bana bazo ko tana ba telephone na classe do magamuga ya mabe mabe to bani do ba professeur ba komo sakana do na ba na classe quoi.
Bon, évidemment, autre temps, autre merci. Hein. Nous, à notre époque, nous avons bien étudié. Hein. Même à l'école, on avait des dotations, cahiers, bics, des matériels parfois didactiques. Ça fait un bout de temps que nos enfants étudient comme ça. Donc, sans matériel, sans livres, consorts. Tout ça, ça fait tout un tas de problèmes. Les niveaux d'éducation avaient un peu dégringolé. Et puis maintenant, l'effort, l'État est en train de fournir, que ce soit la gratuité. La gratuité, c'est bien, mais il faut des mesures d'encadrement, puisque nous trouvons que les enseignants, parfois, sont à la merci. Même puisqu'ils sont là, parfois, sans moyens suffisants, ils retombent encore sur les élèves, les devoirs sont monnayés, et qu'on sort, ouais. Ça ne favorise pas du tout l'avancement d'une bonne éducation de nos enfants. Nous déplorons la situation actuellement, c'est ça.
Bien. Marc, à part les parents, avez-vous interrogé d'autres personnes qui contribuent à l'éducation des enfants?
Alors non, je vous dis, les parents ne sont pas les seuls à s'exprimer à ces sujets. Mm-hmm. Vous le savez, les acteurs qui contribuent à l'éducation sont nombreux. Il y a des parents qui viennent s'exprimer et tantôt que vous avez suivi, il y a des enseignants, mais il y a également des répétiteurs. Alors ce sont des personnes qui expliquent des leçons à des élèves, souvent à la maison, qui les font travailler. Alors ces personnes sont souvent en contact avec les élèves et ils ont une certaine influence sur ces élèves. Nous avions échangé avec l'un des leurs, il s'appelle Deogracias Tumba, il est coordonnateur des Akili Edu, qui est un réseau des répétiteurs scolaires qui œuvrent à Kinshasa. Il a également déploré une baisse du niveau d'éducation en République démocratique du Congo. Suivez.
Le constat que nous avons fait, nous, en tant qu'Akili Edu, qu'il est assez amer. Nous avons constaté que le niveau a sensiblement baissé. Les enfants ne savent ni lire ni écrire. Et c'est vraiment désolant. Et nous pensons que le problème se situe à deux niveaux. Premièrement, au niveau des enseignants qui ne sont pas qualifiés. Les écoles recrutent des enseignants non qualifiés. Et l'adage qui dit l'homme le plus beau du monde ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire que ces enseignants non qualifiés ne peuvent que transmettre les lacunes qu'ils ont déjà aux enfants qu'ils enseignent. Et deuxièmement, le problème se situe au niveau de la motivation des enseignants. Un enseignant, même s'il est qualifié, mais tant qu'il est mal payé, ne fournira pas suffisamment d'efforts pour pouvoir bien enseigner l'enfant. Et cela est un vrai problème que nous rencontrons surtout au niveau primaire, qui est la base même de l'éducation.
Bien, il a épinglé le recrutement, deux problèmes, le recrutement des enseignants non qualifiés et la question de la motivation. Alors, nos internautes, est-ce qu'ils se sont exprimés aussi?
Oui, ils se sont exprimés, vous savez, les sujets tellement intéressants. Alors, j'ai pris deux commentaires. Mm-hmm. Le premier, il est de...
Sur la page Facebook d'Okapi Service.
D'Okapi Service. Mm-hmm. Alors, il y a Maître Joseph Olimwengu de Bukavu qui dit, alors, la réponse est claire, concise et précise. La réponse claire, concise et précise n'est rien d'autre que l'augmentation des salaires. Alors, il dit, si on donne les salaires dérisoires, les SIDA, pour lui, les SIDA, c'est les salaires insuffisants, difficilement acquis. Oui. Alors, on doit récolter ces niveaux bas de l'enseignement. Il dit encore que les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement ont des salaires qui font trembler la planète, jusque même à faire trembler le trône des dieux. Alors, malheureusement, les enseignants touchent des miettes. Alors, comment voulez-vous que ces gens puissent s'époumoner? Il y a également un autre commentaire de Prem Kitouba, il est à Kikwit.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, pour améliorer la qualité de l'enseignement de base, c'est tout simplement question d'avoir des enseignants de qualité et leur satisfaire par une rémunération convaincante. Donc, en tout cas, sur Internet, la raison, elle est unique, et la solution également, elle est unique. Il s'agit donc de l'argent. Il faut bien payer les enseignants. Voilà.
Mais ce que j'ai pourtant, quelqu'un a épinglé tout à l'heure, il s'agit pas seulement de l'argent. Il y a aussi le niveau. Quand on recrute des enseignants non qualifiés, ça aura un coup dur, ça va porter un coup dur à la qualité de l'enseignement. Marc Tchata, journaliste, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine.
Merci.
Bien, nous poursuivons cette émission au Capi Service, émission spéciale sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire. Madame Felana, vous avez suivi votre réaction.
Bien sûr, quand on demande à un enseignant, c'est pour lui quelque chose qui est relatif à la survie, la motivation qui fait qu'il se lève chaque matin pour faire ses préparations, pour aller affronter les élèves et pour faire toutes ses corrections. Ça, c'est quelque chose qui est de base. Et si lui n'est pas payé au niveau où il devrait l'être et à temps au moment où il devrait l'être, ça, c'est quelque chose de majeur. Maintenant, à côté de la motivation de l'enseignant, il y a aussi d'autres investissements à propos de cet enseignant. Comment on le forme, comment on l'accompagne, comment et sa pratique de classe et comment il s'améliore. Mais ça ne garantit pas en fait les résultats à 100% que nous on voudrait. Parce qu'en face de lui, il y a toujours l'élève. Est-ce que l'élève est assez motivé pour étudier lui aussi? Est-ce qu'il a les manuels? Est-ce qu'il n'a pas faim? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est protégé de toute violence? Et tout ça, c'est des points que nous devons adresser aussi. Il y a l'enseignant et c'est un point majeur. Mais il y a aussi d'autres aspects qu'on ne doit pas négliger.
Monsieur Jacques Timbalanga, vous avez la parole.
Oui, évidemment, la question de la motivation de l'enseignant revient. Et s'il faut que je place un mot là-dessus, je dirais que ceux qui continuent à dire que, évidemment, l'enseignant n'est pas très bien motivé, et ils ont raison. Mais la motivation de l'enseignant n'est pas que pécuniaire ou financière, mais elle est aussi psychosociologique. Il y a donc ces deux aspects-là qu'il faut mettre. Je vais, puisqu'on l'en compare toujours entre ce que touche un enseignant et ce que touche un député, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas l'argent seulement qui motive. Eh bien, quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, puisqu'on en parle, il y a des députés qui sont grassement payés, ainsi de suite, mais ça n'empêche pas que lorsqu'on regarde à la télévision, l'on voit des députés, bien qu'ils sont grassement payés, mais qui dorment à longueur de journée, alors qu'ils sont grassement payés. Eh bien, c'est la même chose avec l'enseignant. Ça veut dire qu'il est bien de promouvoir une motivation essentielle pour l'enseignant qui lui permette de vivre, de nouer les deux bouts du mois, mais laissez-moi dire que la motivation seule financière ne suffit pas. Il faut encore que cet enseignant qui est bien motivé financièrement puisse être très bien formé pour prendre en charge une salle de classe, pour prendre en charge les apprenants à sa disposition, mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils évoluent comme il faut. Donc, de ce point de vue-là, la motivation, c'est aussi le fait que l'enseignant qui est dans une salle de classe sache qu'après X années, je peux être promu de telle ou telle autre manière, eh bien, tout cela revient à revoir et à revisiter les conditions des enseignants, mais également à mettre en place le statut des enseignants qui n'est pas encore mise en place, bien entendu, qu'on n'a pas encore adopté. Et donc, là aussi, c'est une autre affaire.
Bien, on va accueillir un instant, monsieur Jacques Timbalanga. Je reviens à vous dans quelques instants. Le temps d'accueillir deux auditeurs, maître Omar Kigalo de Kinshasa et Jean-Pierre de Mahagui. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour, M. Joly. Bonjour aux invités.
Nous parlons de l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Avant tout, je voudrais dire à l'invité qui vient de parler que le statut de l'enseignant existe. Depuis 2014, une loi sur l'enseignement a été votée. Seulement dans ces pays, on a plus de bons textes et non des bons acteurs. Donc, il faut appliquer. Alors, madame, je voudrais savoir quels sont les paramètres à partir desquels il se base pour donner les statuts qu'elle a donné. Tout le monde sait que l'accès est faible, mais quels sont ces indicateurs? Alors, votre question principale était de savoir quel a été l'impact de la gratuité. Le premier impact, c'est l'accès qui a été élevé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui vont à l'école, ce qu'il faut féliciter parce qu'on n'est pas toujours là pour critiquer. Mais le deuxième impact négatif, c'est la baisse de la qualité. Comme les invités l'ont dit, la première cause qu'il faudra récurer, laver, c'est la non-prise en charge. Moi qui ne vous parle aujourd'hui, moi je ne vous parle pas comme simple intervenant. Moi j'ai été enseignant avant de devenir avocat. Il y a un problème sérieux de la prise en charge de l'enseignant. Vous serez dans une école, le même enseignant est conseiller pédagogique, il est préfet, il enseigne encore à l'école primaire. Comment voulez-vous qu'une telle personne puisse être fédible et rendre bon travail? Il y a des enseignants qui ont 4, 3 écoles où ils enseignent. C'est déjà un problème. Ils sont mal payés et ils créent beaucoup d'écoles, ce qui fait qu'ils donnent des enseignements bâtés alors qu'ils sont compétents. Deuxième, c'est un problème important, c'est même la base, les défauts des recrutements surveillés et les manques de contrôle. Vous savez, très cher Jody, la base de l'enseignement se repose sur la tenue de documents pédagogiques. La réussite d'une leçon commence par la prévision des matières, qui doit s'adapter à la table des matières et au programme national. Combien d'enseignants le respectent? Un enseignant doit avoir un cahier de notes, un cahier de préparation, un cahier de questions, un cahier de cotes. Chaque leçon doit avoir un devoir chaque jour. Est-ce que les inspecteurs passent pour vérifier si cela est respecté? On peut être le meilleur enseignant du monde. Si on ne respecte pas la méthodologie, on n'aura pas un bon rendement. Il y a un problème de contrôle. Les inspecteurs ne font absolument rien. S'ils viennent, on leur remet quelque chose, ils rentrent. Autre chose, c'est l'enseignant lui-même. Très cher Jody, l'enseignement n'est pas un cadeau. L'enseignement n'est pas de l'opportunisme. C'est un apostolat. Quand on décide d'enseigner, on y vient pour servir la nation. Vous êtes la journaliste. Vous pouvez même postuler, vous êtes très connu. Mais pourquoi vous demeurez dans votre élément? C'est parce que vous sentez que Dieu vous a appelé dans cela. Il y a beaucoup d'opportunistes dans les secteurs de l'enseignement. Ce qui fait que ils sont pas. Il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle. L'invité l'a dit. Il y a des députés qui sont bien payés, des ministres, mais qui continuent pas à détourner. Donc, si l'enseignant lui-même... Moi, quand j'ai commencé à enseigner dans une école, je n'avais aucun livre. Je suis allé fouiller mes archives. J'ai pris mes propres livres de l'école quand j'enseignais. J'ai considéré cela comme une charge. Parce que lorsqu'un parent envoie l'enfant à l'école, il vous confie la charge et l'avenir de son enfant. Vous devez le faire au sérieux. Et enfin, il y a une torpeur au niveau des parents. Mais chaque jour, il y a des devoirs qui sont donnés. Mais je voudrais finir et je voudrais qu'on réfléchisse avec les invités sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, je dis l'enseignement a changé. Et l'enseignement n'est plus déductif, comme beaucoup d'écoles le font. Elle est inductive, la leçon. Il faut commencer du particulier au général. Aujourd'hui, les cours des Français, par exemple, a une nouvelle méthode qu'on appelle la méthode Sésame. Beaucoup d'écoles ne le savent pas. Il y a le système Aura. Il y a des écoles qui l'appliquent comme l'école émergence. Observation, réflexion, action. On n'écrit plus au tableau aujourd'hui. Vous mettez un sujet, les élèves réfléchissent et une conclusion est dégagée par le maître et les élèves vont à la maison. Ils ont plus de cahiers. Mais il y a des écoles qui continuent à appliquer des méthodes anciennes et classiques. Comment voulez-vous que l'enseignement soit meilleur? Je pense, à mon avis, la prise en charge, des recrutements sérieux, des contrôles pédagogiques, la conscience professionnelle de l'enseignant, des suivis des parents et la mise à jour des enseignants sont des solutions efficaces pour qu'on ait non seulement la gratuité, mais aussi la qualité.
Merci, Maître Ogar, Omar Kigalo, pour cette intervention. Jean-Pierre, vous êtes à Mahagui. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à tous les invités qui se trouvent sur votre plateau.
Quelle est votre question?
Et en fait, je n'ai pas une question proprement dite, mais j'ai ma contribution en tant qu'enseignant ici à Mahagui.
Ok, allez-y. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire?
Monsieur Jeudi, j'ai les larmes aussi à prendre la parole. Ici, à Mahagui, il y a un problème sérieux que les enseignants sont en train de connaître. Vous pouvez croire, le salaire est donné des mois, les enseignants passent des mois sans être payés. C'est le troisième mois que les enseignants vont recevoir le salaire. Et il faut voir, ce salaire, ce maigre salaire, en tout cas, c'est chaos. Et alors, vous voulez que cet enseignant fasse quoi? Cet enseignant qui a fait trois mois sans être payé, et qui va encore recevoir un seul mois. Vous voulez qu'il fasse quoi? Cet enseignant. Alors, je crois que l'enseignant est démotivé, l'enseignant ne peut rien faire. Il faudrait que le gouvernement, c'est le gouvernement qui est responsable de tout ça. Alors, il faudrait que le gouvernement prenne les choses au sérieux pour que nous puissions aboutir à ce que l'on veut. Voilà ma petite contribution que je voulais donner.
Merci Jean-Pierre Demag et Pascal Kalonda, vous êtes à Kassindi. Bonjour.
Ask your operator for assistance.
Oh, désolé, il n'est plus en ligne. Madame Felana, votre réaction après avoir écouté ces interventions?
Déjà, je voulais répondre à la première intervention pour dire que les chiffres et les données que nous avons proviennent des l'annuaire statistique de 2021. Et ça, c'est vraiment le document de pilotage qui regroupe toutes les données éducatives du ministère de l'Éducation. Et donc, c'est vraiment des données qui sont accessibles à tous. Le second, peut-être par rapport à tout ce qui est apprentissage et compétences des élèves, ce sont les données du PASEC, les évaluations d'apprentissage qui sont effectuées dans beaucoup d'Afrique, pays d'Afrique francophone et dont la République démocratique du Congo en fait partie, qui évalue en fait ces compétences des élèves à un niveau défini. Bien sûr, quoi qu'on dise, on sera toujours là à tourner autour de grands piliers de la qualité de l'éducation. Mmh. Et ces grands piliers seront toujours l'enseignant, les manuels et les élèves et le pilotage ou la gouvernance. Maintenant, dans cet aspect enseignant, bien sûr, un enseignant qui est payé, mais qui est payé peu, ou un enseignant qui est beaucoup payé, je conçois vraiment l'idée que oui, on va au-delà de seulement la motivation financière. Parce qu'un enseignant, si à 20 ans, on rentre enseignant, à 50 ans, à 60 ans, on est en retraite, est-ce qu'il y a quand même un plan de carrière pour cette personne, même si elle est payée comme il faut? Est-ce qu'elle va rester enseignant toute sa vie? Est-ce qu'on a réfléchi à un plan de carrière? Est-ce qu'on a réfléchi à des améliorations, à des plans de formation continue pour qu'il puisse toujours donner le meilleur de lui-même? Mmh. Et donc tout ça, ça fait partie vraiment de cette réflexion qu'on a à avoir sur l'enseignant. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour l'avoir? Et c'est la même chose pour l'élève, la même chose pour au niveau de la gouvernance. Parce que quoi qu'on fasse pour l'enseignant, si on le paye comme il faut, si on a la gestion de carrière, si on a tout ce qu'il faut, mais si cet enseignant-là ne vient même pas enseigner, s'il enseigne 2 heures au lieu des 5 heures réglementaires, si on n'a pas la gouvernance qui suit, si on n'a pas l'encadrement de l'enseignant pour qu'il se sente motivé et qu'il fasse mieux, tout cet investissement qu'on est en train de faire pour l'enseignant, on le perd. Et c'est la même chose pour les élèves. Si on investit pour les manuels sont essentiels. Mais si le manuel se retrouve au marché, au lieu de se retrouver aux mains de l'élève, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on est en train de privilégier celui qui peut se payer le manuel au marché et priver celui qui ne peut pas. Et donc cet investissement qu'on est en train de faire, on le perd. Et donc pour moi, toutes les priorisations qu'on est en train de faire, ça c'est un exercice qui doit se faire, mais systématiquement avec la gouvernance. Est-ce que les moyens qu'on met à bord, qu'un enseignant qui doit être payé, est-ce qu'il est vraiment payé? Est-ce qu'il est payé à temps? Et est-ce qu'il fait le minimum qu'il doit faire pour l'école? C'est là où on peut espérer quelque chose.
Monsieur Jacques Timbalanga, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir pour en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau primaire?
Eh bien, en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'enseignement au primaire, je préfère d'ailleurs, d'abord avant de placer un mot dessus, revenir sur la question du statut des enseignants. Le statut particulier des enseignants n'existe pas encore. Il a atterri au Parlement qui ne l'avait pas adopté, ça fait 2-3 ans. qu'ils n'avaient pas adopté. Donc ces statuts particuliers là n'existent pas encore. C'est là peut-être que l'on pourrait voir les questions de plan de carrière et ainsi de suite et réglementer toutes ces choses là. Voilà, donc c'est une question. D'ailleurs, les enseignants courent encore derrière ça pour qu'ils soient évidemment protégés, parce que la majorité d'enseignants aujourd'hui, avec le système actuel, ils travaillent un peu comme des journaliers. Hein, vous êtes là, vous tombez malade, après 3, 4, 5, 6 mois, eh bien voilà, on vous met de côté et on vous remplace par une autre personne, et c'est la personne qui arrive prend votre salaire. Alors, donc, d'où la question de la titularisation qui devrait faire partie justement de cette question du statut particulier des enseignants qui n'est pas encore là.
Bien, il nous reste juste quelques secondes, voilà. Juste l'essentiel, M. Jacques, rapidement.
Évidemment, concernant justement la question de la qualité, je continue à insister sur le fait que, pour nous, aujourd'hui, l'on veut consolider la gratuité, c'est dans la qualité, et la qualité, ça nécessite l'investissement au moyen de moyens publics. Nous insistons sur les moyens de l'État, les moyens publics, pour que, un, l'enseignant soit formé en formation initiale et continue, que l'élève ait le droit à un enseignant qualifié dans sa salle de classe.
D'accord.
Trois, au niveau de l'encadrement, que l'on dote des moyens qu'il faut pour que l'inspecteur fasse son travail plutôt qu'il soit pris en charge par l'école.
Merci, Monsieur Jacques. Merci, Monsieur Jacques. On aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du CONEPT et nous disons aussi merci à Madame Felana Aliderson, spécialiste éducation à l'UNICEF. Allez, à la prochaine.
Merci.